De toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama du mercredi 23 novembre. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et on est plutôt content de réintégrer les studios de Divergence puisque les précédentes émissions non seulement ne faisaient pas une heure mais plutôt 25 à 30 minutes et qu'on les faisait dans des conditions hors du direct.
Mais c'était à cause de la pluie ou à cause de notre participation à un long métrage américain quand même.
C'est vrai aussi, dont tu avais parlé la semaine dernière. Tournage qui s'est achevé à la battle de ce week-end. Alors, aujourd'hui, un sommaire copieux. De quoi tu vas nous parler ?
Moi, je vais vous parler de Sleeping Beauty. On parlera un peu tous les deux de Contagion et de Or Noir, le nouveau Jean-Jacques Hano. Et je vais quand même vous parler un petit peu d'Intouchable.
Et puis à l'occasion de Contagion, tu proposeras aussi un blind test.
Un blind test spécial film sur les virus, les épidémies, tout ça.
Et puis moi je vous parlerai de L'Art d'aimer aussi, film de Emmanuel Mouret avec une interview puisqu'il était présent au Cinémed. Il y aura aussi une interview de Jean-Jacques Hano qui était présent à Montpellier il y a une quinzaine de jours et qui présentait Or Noir. Donc nous parlerons aussi d'une semaine de cirque puisque Divergence est partenaire de cette manifestation organisée par l'Université de Montpellier. Et puis donc Contagion c'est déjà dit, mais on va commencer avec Le Stratège de Bennett Miller. Et c'est avec Brad Pitt quand même et Philippe Seymour Hoffman. Alors Le Stratège est sorti au mauvais moment, confiné dans une petite salle en première semaine au Gaumont Multiplex. Il sera retiré des écrans ce mercredi et il ne sera plus visible qu'au Gaumont Comédie et peut-être aussi le CGR. Et ce sera l'occasion donc de s'offrir 2 heures d'un film sur le baseball qui mêle économie et sport. Alors autant dire que la culture du baseball est réservée aux Américains et un peu quand même aux Japonais. Alors se coltiner 2 heures de baseball n'est pas forcément un pur plaisir et surtout pour le public féminin qui souhaiterait voir Brad Pitt qui est de toutes les scènes ou quasiment. Un Brad Pitt dans la force de l'âge, en survêtement la plupart du temps, ne cessant jamais de manger et de cracher. Mais si Brad Pitt a un talent, c'est bien celui-ci, manger, et ça je l'avais déjà remarqué dans Ocean Eleven, ingurgitant un hamburger en toute décontraction, avec une espèce de début de raw. Enfin ça c'était une scène insignifiante qui m'a pourtant marqué, et je regrette quand même que dans Le Stratège ce jeu particulier soit surexploité. Mais l'attrait du film n'est pas tant dans la performance de Brad Pitt que dans son sujet. Alors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général des Oakland Athletics, est confronté à une situation difficile. Sa petite équipe qui est allée jusqu'à la porte de la finale a encore perdu ses meilleurs joueurs, attirés par les grands clubs et leurs gros salaires. Alors bien décidé à gagner malgré tout, il cherche des solutions qui ne coûtent rien et auxquelles personne n'aurait pensé avant. Il va s'appuyer sur des théories statistiques et engager l'introverti en surpoids Peter Brand, un économiste qui a fait ses études à Yale et parfaitement étranger au monde du sport. Alors ensemble, contre tous les principes, ils reconsidèrent la valeur de chaque joueur sur la base des statistiques. Style curieux, trop vieux, blessé, fragile psychologiquement ou posant trop de problèmes, tous ces joueurs ont en commun des capacités sous-évaluées, bonne pour le baseball. Avec leur méthode et leur équipe atypique, Beane et Brand s'attirent les moqueries et l'hostilité des habitués du baseball, des médias et des fans jusqu'à ce que les premiers résultats tombent. Beane est en train de révolutionner tout simplement la pratique de ce sport qu'est le baseball. Alors ce qui est à l'œuvre dans Le Stratège, c'est la lutte entre la vieille école et la modernité, entre l'astuce et les paillettes, entre les fauchés forcés de réfléchir et de compter et les nantis d'abord soucieux de leur image. Adapté du livre Moneyball, écrit par Michael Lewis, ce long métrage est une description fidèle des mœurs du sport de haut niveau, où un joueur est comme une marchandise, il s'échange contre un autre, se brade ou se paie le prix fort. On y voit à l'œuvre la place de la hiérarchie sportive et managériale, car entre le manager Beane, qui choisit les joueurs et l'entraîneur interprété par Seymour Hoffman, qui les fait jouer, ça n'est pas l'entente cordiale. L'un gère un budget quand l'autre gère un effectif. La mise en scène orchestre ce monde avec légèreté. Brad Pitt, le manager, ne tient pas en place. Il n'y a guère qu'avec sa fille qu'il sort de son rôle de gestionnaire à grande gueule. Le contraste entre l'ancien sportif devenu manager, donc Brad Pitt, et le statisticien bouffi qui mène l'équipe au sommet a quelque chose d'incongru, car ces deux-là n'ont en apparence rien pour s'entendre. Mais dès qu'on vise la réussite, il y a toujours moyen de s'entendre.
Peña est un All-Star. Ok, et si vous le foutez dehors et que Atterberg ne marche pas aussi bien que nous l'avons prévu, vous êtes conscient que c'est le genre de décision qui vous coûterait votre place. C'est sûr.
Ouais, t'as raison. Je pourrais perdre mon job. Auquel cas, je suis un vieux de 44 ans qui a juste le bac en poche et une fille à qui j'aimerais offrir de longues études. Toi, t'as 25 ans. T'es diplômé de Yale, avec un apprentissage haut de gamme. Je crois pas qu'on se pose la bonne question. Je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est... Tu as foi en ce qu'on fait, oui ou non?
Absolument.
Alors il ne faut pas croire qu'on va manger des matchs de baseball à toutes les sauces et que le point culminant du film sera le match parfait. Non, les images de baseball arrivent de temps à autre, aussi souvent que les passages où Brad Pitt roule dans son gros 4x4 ou qu'il voit sa fille. Des flashbacks viennent aussi ponctuer le récit de temps à autre, découvrant un jeune joueur à qui on promet une carrière sportive s'il renonce aux études. Eh bien c'est le jeune Beans pris dans le système du sport business, car Beans a été pris dans les rouages de cette vieille école où des recruteurs voient en vous le nouveau champion, quitte à prendre des risques et se tromper. Ils veulent être les premiers à vous faire signer. Deux scénaristes de renom sont aux commandes de ce film, qui n'est pas seulement une fiction documentée sur le baseball. Et si le stratège commence doucement, on est ensuite emmené jusqu'au terme d'un championnat d'un nouveau genre. Et ça se déroule plutôt sans accroc. Donc le stratège, en version originale c'est Moneyball d'ailleurs, est projeté au CGR et au Gaumont Comédie seulement, dans des petites salles.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Autre registre, on passe maintenant à Sleeping Beauty. Alors, c'est l'histoire d'une jeune étudiante australienne, habituée au petit boulot le jour et à la tournée des bars huppés la nuit, qui répond un jour à une mystérieuse annonce. Elle accepte, sans discuter, de servir lors de soirées mondaines quelque peu déviantes, jusqu'à ce que son employeuse lui propose un autre genre de travail. Il lui suffira d'ingérer une tisane qui la plongera dans un coma temporaire et de s'endormir dans la chambre luxueuse d'un manoir perdu. Pendant la nuit, viendront des clients fortunés, elle ne pourra jamais savoir ce qu'ils lui font, mais se réveillera, sans stigmate ni souvenir. Cette belle au bois dormant des temps modernes est loin d'être une héroïne de Walt Disney, prête à tout pour gagner de l'argent, allumeuse pour tromper son ennui, paumée dans son existence glauque et isolée de toute vie sociale, à l'exception de son seul ami, un alcoolique agoraphobe, sur le point de mourir. L'actrice Emily Browning, que l'on avait déjà remarquée dans le très geek Sucker Punch, est absolument parfaite dans le rôle, une sorte de figure d'un néo-érotisme dérangeant où la froideur le dispute à la puérilité. Elle incarne le reflet quelque peu excessif d'une époque où les rapports à l'argent et au sexe ne sont plus très clairs. Incroyablement cynique, le film en appelle à notre volonté d'identification et à notre jugement. Que ferions-nous à sa place et comment juge-t-on ce personnage ? Peu de clés nous permettent d'approfondir cette analyse. La jeune femme est si diaphane qu'elle en est presque fantomatique et la caméra la contemple avec une distance telle qu'elle finit par tuer le moindre embryon de compassion qui pourrait naître en nous. On ne saura jamais ce qu'elle pense réellement ni d'où elle vient et pourquoi elle agit de la sorte. Beau comme un tableau mais glacé comme son héroïne, le film brouille les pistes dans une ambiance progressivement malsaine. Critique de notre temps, drame surréaliste, portrait de femme, il nous tient surtout en haleine par le malaise qu'il inflige à son apogée lors d'une fin incompréhensible assez ratée. On peut reprocher au film d'avoir un discours difficile à cerner, mais certainement pas d'être à couleur, et bien que le CCAS l'ait interdit au moins de 16 ans pour incitation à la prostitution, le film vaut largement mieux que l'odeur de soufre dont il se parfume pour mieux se vendre. Ne tenez pas compte du mauvais goût de l'affiche qui tente de fourguer du fantasme bon marché, le film est inclassable, mais réellement fascinant, fait d'un style qui emprunte à Buñuel avec talent et annonciateur d'une prometteuse carrière pour la réalisatrice Julia Leight. C'est au Diago, dans la plus mauvaise salle, mais ça y est quand même.
Et avec...
Stop au virus de la grippe. Se couvrir la bouche et le nez pour tousser ou éternuer. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier. Jetez-le dans une poubelle, puis lavez-vous les mains au savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Si vous n'avez pas de mouchoir en papier, pour ne pas tousser ou éternuer dans vos mains, utilisez votre manche, le pli de votre coude ou le haut de votre bras. Stop au virus de la grippe. Les gestes de chacun font la santé de tous.
Et oui, Marine, hein, ce qui était valable il y a un an est toujours valable en ce moment, donc il était utile de rappeler ce message. Rien ne se propage comme la peur, prévient l'affiche de Contagion, dernier film de Steven Soderbergh. Un film catastrophe à gros budget et casting grande classe qui brode un scénario autour d'une épidémie qui touche le monde entier. Quand la crise frappe une partie du monde, est-ce bien divertissant d'aller regarder un film qui nous promet une mort certaine si on ne se lave pas les mains au détergent toutes les 5 minutes ou si on ne prend pas garde d'éviter les transports en commun là où l'éternuement d'un passager est un mal en puissance? Alors on se souvient sûrement de La Route de John Hillcoat avec Viggo Mortensen tentant de survivre avec son fils dans un monde agonisant, livré à la sauvagerie et au pillage, baigné dans une lumière froide et l'humidité des forêts. On se souvient aussi dans un tout autre style de Je suis une légende, où Will Smith doit batailler contre des zombies dans une lumière purement hollywoodienne, où le soleil se partage le beau rôle avec le ciel bleu. Eh bien, Contagion, lui, use d'une sorte de filtre lumineux, froid, bleuté, quasi hospitalier, et d'une mise en scène aride pour nous laisser entrevoir ce monde, le nôtre, avec nos repères. Pas d'anticipation démesurée ici, de tremblement, de zombies ou d'envahisseurs. Le virus est passé d'une chauve-souris au porc, puis à l'homme et contamine tranquillement l'homo sapiens, qui fait test sur test pour enrayer le mal. Alors l'une des forces indéniables de Contagion, c'est de se dérouler sans accroc. Du premier au dernier jour, on se retrouve comme dans un protocole. La recherche de la source, sûrement l'Asie, puisque la première victime est Gwyneth Paltrow. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, c'est ça.
De retour de Hong Kong. La mise en place d'un plan de crise par le gouvernement. Alors, faut-il dire la vérité sur la menace ? Quels sont les espoirs de trouver un vaccin ? Comment les gens vont réagir individuellement et collectivement ? Ça, on l'apprendra pendant les 1h45 du film. Si tout se déroule à merveille parce que Soderbergh sait filmer et nous offrir ce petit supplément dans l'image ou dans le montage que n'ont pas tous les blockbusters, le scénario, lui, aurait mérité d'être moins éparpillé façon puzzle. Il y a une multitude de personnages dont finalement on a à peine à s'attacher, celui de Marion Cotillard, membre de l'OMS, à la recherche de la source. On s'en serait bien passé tant l'intrigue est bâclée et le dénouement surprenant. Tout comme le personnage de Jude Law, sorte de fouille-mère de cybernaute et charlatan qui tire parti de la pagaille et permet calmement au cinéma américain de présenter le vaccin comme l'ultime rempart à la maladie, à se demander si le film n'a pas reçu des financements des laboratoires pharmaceutiques, histoire de bien nous mettre dans la tête que le vaccin, malgré les effets secondaires, est la seule solution. Et on a bien vu comment la dernière épidémie de grippe fut une aubaine pour les laboratoires. Alors on peut ajouter à cette liste des personnages inutiles tant qu'on y est celui de Kate Winslet qui va mourir bien vite sans avoir vraiment existé aux yeux du spectateur. Alors si les choses avaient été bien faites, il aurait fallu à Soderbergh deux fois plus de temps. Au lieu de ça, les personnages sont survolés, certaines situations intrigantes sont laissées de côté. Matt Damon qui tente de sauver sa fille de la maladie en l'enfermant est un élément scénaristique sous-exploité. Et finalement, celui qui apparaît le plus à l'écran est sans doute Laurence Fishburne, Monsieur Morpheus, qui est chargé de superviser pour le ministère de la Santé cette épidémie. Mais on reste dans la gestion de la crise qui surligne cet aspect descriptif du film, description qui amène parfois à faire des raccourcis. Les gens entrent bien vite en panique, le vaccin est bien vite expérimenté. On est là dans les artifices du cinéma.
Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent.
Baisse.
Maman ?
Non, retourne dans ta chambre, chérie.
Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure.
Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess.
Elle a des antécédents ?
Non.
Des allergies ?
Depuis hier soir, on compte 32 cas.
Et là, s'il se trouve qu'elle est morte.
D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler ?
Monsieur Emhoff, votre femme est décédée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ok.
Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dites-moi ce qui lui est arrivé !
Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face.
Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent.
Il y a transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens.
Le premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. C'est ça qui nous pend au nez.
Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker.
Ce sera la panique générale.
Approche-moi !
Tout va basculer. On cache la vérité au monde.
Détruis tout. Brûle les échantillons.
Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent.
Ce n'est pas le moment de paniquer.
Je sais.
Je vais vous ramener chez vous.
Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Cheever. On en a tous.
Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres.
Remontez dans votre voiture.
Vous n'êtes pas malade.
Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute.
Voilà, donc ça fait peur, non ?
Oh oui.
Au final, Contagion donc, reste à la surface. Par ailleurs, le casting exceptionnel et la mise en scène parviennent à gommer les carences du scénario. Mais Contagion ne restera pas, sauf quand même pour quelques scènes bien ficelées, un grand film. Et Soderbergh pourra se rattraper avec son prochain film qui sort dès février, parce que Soderbergh a l'habitude aussi d'enchaîner. Je ne sais plus, j'ai perdu le titre, mais c'était avec Michael Douglas.
D'accord, très bien. Eh bien, on va rester dans les histoires de virus avec un petit quiz rapide.
Oh, mais avant le quiz, on avait de quoi se détendre.
Ne laissez pas le danger entrer chez vous.
Si vous n'avez pas de nez, les gestes d'alcoolique font la santé de tous. Jetez votre coude ou vos mains ou votre bras dans une poubelle.
Voilà, c'était tout. C'était juste une manière de déformer le message officiel. Maintenant, c'est à toi avec le blind test.
Et on va commencer avec le premier extrait tout de suite.
Il faut que je téléphone. Téléphone ? Téléphone ? Non, ça c'est communication avec le reste du monde, à la discrétion du docteur. Non, regarde, allez. Si tout s'effondre, vous pouvez téléphoner. La folie se répandrait partout. À travers le téléphone, elle s'insinuerait dans les oreilles des malheureux saints d'esprit. L'infection, carrément, débarque partout, la folie épidémique.
On y va.
En fait, il y a très peu de... Jim. En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je dis pas que toi, tu n'es pas. Je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Mais c'est pas pour ça que t'es ici. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que t'es ici. C'est uniquement à cause du système.
Ça ressemble à l'armée des douze singes. Ça ressemble à l'armée des douze singes, mais il n'y a pas de... Non.
Mais si, voilà, c'était Brad Pitt qui, quand il n'est pas entraîneur de baseball, est fou. Voilà.
Ouais.
C'était bien l'armée des douze singes. Et je précise
je me
d'ailleurs que...
plus qu'il y avait une histoire de virus dans l'armée des douze singes.
Si, en fait, à la base, c'est ça. Voilà.
D'accord.
Et tous les extraits d'ailleurs que j'ai compilés restent vraiment dans les 15 dernières années. Donc c'est très post-apocalyptique et zombiesque, j'ai envie de dire.
D'accord.
Deuxième extrait.
Je m'appelle Robert Neville. Je suis un survivant. Je vis à New York. J'émets sur toutes les ondes courtes. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi, quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend, j'ai de la nourriture, j'ai un refuge, vous serez à l'abri. Si quelqu'un m'entend, n'importe qui, je vous en supplie, vous n'êtes pas seul.
Bruno a trouvé en premier.
Ouais. Bah, Je suis une légende, oui.
Ah non, c'est derrière, dans le studio.
Donc c'est Je suis une légende avec Will Smith et son toutou.
Oui, voilà, c'est ça.
Et la belle lumière qu'on voit dans le film. Hein,
dont tu as parlé tout à l'heure.
Ouais, absolument.
Alors là, pour crever un pneu, c'est l'endroit idéal.
T'as raison, il faut réparer ça en vitesse. Je sens la roue, occupe-toi du fric.
Vous avez entendu ? Hé, hey, t'entends ?
Ouais.
Ça y est, c'est bon. Papa ?
Oh non ! Alors,
Hydra !
Enlève-lui ça !
J'essaie d'échapper aux contaminés.
Dépêchez-vous !
Laisse tomber le fric!
Les regardez pas!
Attends, laisse tomber! On soulève tout le monde!
Les regardez pas!
Vous voyez une bonne prise! 1, 2, 3, on soulève!
Je sais pas. Non.
Il y avait des rats et des zombies qui arrivaient à la fin de la scène. Et c'était Cillian Murphy au début qu'on entendait parler. C'était 28 jours plus tard de Danny Boyle.
Ah, d'accord, oui. Ouais. Je sais plus lequel j'ai vu. Mais...
Tous les employés d'Umbrella Corporation doivent porter leur badge à tout moment de la journée. Les employés, sans exception, doivent porter le badge
permanent. Merci.
Bonjour, tu vas bien ?
que je suis prise. C'est rien, c'est un exercice d'évacuation.
Pas beaucoup de dialogue, mais Bruno a trouvé, c'était la scène d'ouverture de Resident Evil, le tout premier.
Film qui a l'air passionnant, oui.
Oui, en effet, oui. Il se passe pas grand-chose au niveau vocal, mais bon.
Ouais.
Dernier extrait.
Putain de merde ! En isolement ! En isolement !
Ne vous inquiétez pas. Le virus ne vole pas.
Sam Daniel, CMRMI.
Benjamin Moabi. Nous vous attendons depuis longtemps.
Nous sommes venus dès que possible.
Pas assez vite. Le village est mort.
Vous connaissez la période d'incubation ?
Non, mais il tue en 2 ou 3 jours. Le taux de mortalité est de 100%.
Mon Dieu. Est-ce qu'un porteur du virus a pu quitter le village ?
S'il l'a fait, il est mort ou agonise dans la jungle.
Mmh.
On est à 80 km du village suivant.
Premier cas ? Patient zéro ?
Un jeune homme appelé Murazo qui a travaillé avec un blanc pour la construction d'une route vers Kinshasa. Quand il est revenu, il était malade.
Mmh.
Et il a bu à ce puits. De là, le virus s'est répandu dans tout le village.
Rage.
Et non, là, c'était pas Rage, c'était Alerte.
Oui, voilà, avec Dustin Hoffman, le plus ancien là, de la série, puisqu'il datait de 95, et c'était un film de Wolfgang Petersen.
Mmh. Sans doute un des films d'ailleurs les plus célèbres sur la contamination.
Oui, et qui ne parle pas de zombies pour une fois.
Voilà. Et après, parmi les premiers films de Cronenberg, il y avait aussi des choses à trouver, notamment un film qui s'appelle Rage, ou Rabid, enfin, je sais plus, c'est un des deux. Mais à voir, c'est un grand film de la période Cronenberg avant les années 80. Merci en tout cas, Marine, d'avoir proposé ce petit jeu passionnant pour les auditeurs. On enchaîne absolument sans transition avec le cirque, boum badaboum, et on va écouter Christian Rollo, qui est professeur à l'université et qui enseigne le cinéma. Alors, Divergence FM est partenaire d'une semaine de cirque, hein, qui est une manifestation organisée par l'université, qui propose des conférences sur le cirque, mais aussi des spectacles de cirque et beaucoup, beaucoup de films autour du cirque. On en parlera dans l'agenda, mais avant, on écoute la relation cinéma et cirque.
Nous vous présentons le cirque. Magicien multicolore dont les harmonies enchantées transportent les enfants de tous âges, de 6 à 60 ans, dans un monde étincelant de paillettes et de sucre candi. Un monde de témérité insouciante, d'éclats de rire sonores, de tourbillons vertigineux. Un monde de rythme, de frissons et de grâce, de hardiesse et de danse, de chevaux dressés et d'acrobates aériens. Mais derrière ce monde de rêves, le cirque est une machine puissante, toujours en mouvement, dont l'existence même repose sur la discipline, la décision et la rapidité de chacun de ceux qui l'animent. C'est une armée mécanisée qui doit poursuivre opiniâtrement sa route, prête à affronter tous les périls. Mais toujours après renaît le sourire. Cependant, le malheur et la tragédie sont embusqués sous le chapiteau, rôdent autour des coulisses et accompagnent sans trêve le cirque. La mort constamment est à l'affût d'un câble usé, d'un chaînon prêt à se rompre, du moindre instant de défaillance ou de crainte. Mais quoi qu'il arrive, une fois la représentation terminée, la caravane reprend inexorablement sa route vers son destin. C'est tout cela, le cirque.
Dans le cadre de son partenariat avec Une Semaine de Cirque, Divergence FM donne la parole aux intervenants, aux organisateurs et aux acteurs de cet événement consacré aux arts de la piste. Aujourd'hui, je suis avec Christian Rollo, professeur de cinéma à l'université Paul Valéry, qui interviendra dans le colloque consacré au rapport entre cirque et cinéma. Alors bonjour Christian Rollo.
Bonjour.
Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que dès les origines, le cinéma avait une sorte d'affinité avec le cirque, parce que c'était une attraction foraine, c'était un spectacle présenté sur des champs de foire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ces origines ?
Oui, bien sûr. Bon, tout le monde le sait, hein, le cinéma a au début une enfance modeste, un peu misérable. Il traînait sur les champs de foire, dans les attractions foraines. Mais son rapport avec le cirque est plus profond que cette simple promiscuité de fêtes populaires. En effet, au début du cinéma, le cinéma comique est majoritaire en quantité de production. Et ce cinéma comique, des débuts, est à peu près alimenté à 50% par des gens qui précisément viennent du cirque et du music-hall. Quand on fait du cinéma comique à cette époque, on ne vient pas du théâtre, sauf exception comme Max Linder. On vient plutôt de la piste. C'est ce qui fait que les premiers comiques étaient des gens fort peu instruits, beaucoup ne savaient pas lire, et leur répertoire était extrêmement fruste. Par exemple, le répertoire du cinéma comique des débuts est très souvent issu des comédies clownesques. On l'a oublié. Mais par exemple, une entrée comme celle du miroir brisé, que tout le monde connaît parce que c'est un jeu de colonie de vacances, où un miroir étant brisé, celui qui l'a brisé mime exactement ce que fait l'autre pour lui donner l'impression qu'il est son reflet. Ça, c'est tous les comiques qui ont fait ça. Max Linder a un très beau miroir brisé dans un de ses derniers films américains. Les Marx Brothers aussi, mais à peu près tous. Une autre entrée, par exemple, on a souvent parlé des tartes à la crème. Chacun s'en est donné l'inventeur, Max Sennett, puis d'autres. En réalité, ça vient des clowns aussi, ça vient du 19e siècle. C'était une entrée qui s'appelait l'entrée de la colle à tapisser, où le clown blanc devait, avec ses augustes, tapisser une salle à manger, et puis il est appelé dans la coulisse, il y va, et il confie le travail à ses deux augustes. Et alors, évidemment, avec la colle et les seaux, arrive ce qu'on devine. Et bon, bah, c'est l'ancêtre des batailles de tarte à la crème.
Alors à ses débuts, le cinéma muet est plus proche aussi du cirque que du théâtre, parce que voilà, le cirque est un spectacle d'image, contrairement au théâtre qui est un spectacle de parole. Et tant qu'il est muet, le cinéma va plutôt piocher du côté du cirque.
Oui, ça c'est vrai. L'handicap du cinéma sérieux, jusqu'au moment où la parole arrive, c'est qu'il avait besoin de parole. Et il a eu beaucoup de mal à se dégager du théâtre. D'ailleurs, il ne s'en est jamais vraiment dégagé. Ce qui fait que quand le parlant est arrivé, tout le cinéma sérieux est tombé aux oubliettes. Seul le cinéma comique a survécu. Et pourquoi ? Précisément parce qu'il n'avait pas recours à la parole. Que le cinéma comique avait comme moyen d'expression l'expression corporelle. Le geste, le mouvement, le déplacement, l'espace. Et ça vieillit beaucoup moins vite que des gens qui font semblant de parler. Alors, de la même manière, chez les premiers comiques, mais la tradition s'est conservée longtemps, le cirque était intégré très souvent dans les sujets. Et la plupart des grands auteurs ont fait un film sur le cirque. Mais bon, les Marx Brothers en ont fait un jour au cirque. Vous avez Max Linder aussi, qui a fait le roi du cirque. Vous avez Danny Kaye, vous avez Jerry Lewis, vous avez Laurel et Hardy. Hein, Pierre Etex, n'en parlons pas, Jacques Tati aussi. Donc, c'est une tradition qui demeure, même chez des gens qui n'ont pas eux-mêmes débuté au cirque, mais il ne faut pas oublier que Chaplin a fait du cirque. En 1906, hein, pendant une année, il était encore enfant, et il a travaillé dans un cirque. En ce qui concerne le film lui-même, qui s'appelle Le Cirque, ce qui a donné à Chaplin le goût de le faire, l'idée est venue d'une des scènes finales, une des séquences où il est sur un fil, en haut du chapiteau, et il fait un numéro d'équilibriste. Chaplin n'était pas du tout équilibriste, et pour faire le film, il a travaillé quelques mois pour apprendre à monter sur un fil avec un balancier, et pour corser la chose, pour le rendre un peu plus difficile, un peu plus spectaculaire, il n'avait rien trouvé de mieux que de s'adjoindre quatre ouistiti qui sautaient sur lui, qui le déshabillaient, et dont un, malheureusement, l'a mordu sévèrement au nez, qui lui a donné 6 semaines de congé de maladie. Chaplin, qui avait mis son art du mime parfaitement au point, et Dieu sait s'il n'a jamais été égalé depuis lors, n'a pas vu de gaieté de cœur l'arrivée du parlant. Ça ne l'inquiétait pas pour lui, mais il ne savait pas du tout comment les choses allaient tourner. Il se sentait néanmoins suffisamment fort pour persévérer dans sa voix en pensant qu'il était arrivé à un degré suffisant de perfection et de force pour continuer à faire des films muets alors que les autres parlaient. Et il a eu raison, puisqu'il a fait des films muets jusqu'en 1935. Le dernier, qu'on appelle film muet à tort, disons film sonore, non parlant, hein, mais Les Temps modernes est effectivement un film où on ne parle que par des bancs titres.
Parlons un peu plus précisément de votre intervention dans le colloque consacré au rapport entre le cirque et cinéma. Ce sera vendredi 25 de 9h à 17h à l'espace Saint-Charles. La question que vous allez aborder, vous, c'est comment filmer le cirque ? Est-ce que vous pouvez donner un avant-goût de ce qu'on pourra découvrir pendant ce colloque ?
En ce qui concerne l'image du cirque au cinéma, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le cirque dans les films de fiction et le cirque dans les documentaires. Dans les films de fiction, le cirque est nourri de poncifs. C'est-à-dire qu'à chaque métier du cirque, tant qu'il est d'auteur, les clowns, les trapézistes, chacun d'eux a une espèce de collection de poncifs qui lui colle à la peau et qui est plus vrai que vrai. En même temps, le milieu du cirque est toujours montré comme un milieu mystérieux, un milieu secret, un milieu qui fait rêver aussi. Et tout ça forme une espèce de mélange, d'où il ressort par exemple que les dompteurs sont toujours des gens cruels, que les belluaires ou les massistes, c'est-à-dire les hommes de force, sont toujours des amoureux imbéciles ou alors des amoureux trahis, que les trapézistes sont des gens extrêmement passionnés, violents et qui peuvent s'assassiner. Quant au clown, alors, c'est celui qui a le plus la faveur des cinéastes parce que précisément, il porte un masque. Ce masque est un masque de dérision, de comique, de bêtise. Et on se plaît toujours à voir derrière ce masque le contraire, évidemment, de ce que le masque indique. C'est-à-dire que souvent, le clown, c'est le criminel caché. C'est le personnage extrêmement négatif qui jette le masque à la fin. Et on découvre avec horreur que derrière ce clown innocent qui faisait rire les enfants, il y avait un monstre. Ça, c'est pour la fiction. Alors maintenant, pour le documentaire, c'est tout à fait autre chose, parce que l'objet n'est pas le même, et l'objectif non plus. D'abord, ce sont de vrais numéros, hein, avec de vrais artistes de cirque. C'est pour ça que je disais que l'objet n'était pas le même. Ce ne sont pas des acteurs qui font les artistes de cirque, ce sont de vrais artistes de cirque. Et le but, c'est de faire passer le numéro de la meilleure façon possible pour rendre le mieux compte possible de tout ce qu'il a d'exceptionnel. Ce qui est difficile de faire prendre conscience au cinéma, c'est que le numéro qu'on voit comporte un certain nombre d'exploits. Parfois des exploits assez communs, que l'on voit dans pas mal de numéros du même genre, ou alors des exploits tout à fait exceptionnels. Or, le cinéma, sur ce plan-là, a un handicap. Parce que le cinéma, c'est le trucage. Le cinéma a l'habitude, précisément, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et de nous présenter des choses impossibles comme si elles étaient vraies. Donc, ça dévalue le travail de l'artiste de cirque qui, lui, quand il commet un exploit, le commet de façon authentique et vraie. Donc, tout dans le filmage doit être là pour accréditer le fait que ce que l'on voit n'est pas truqué, n'est pas arrangé, que ça n'est pas du cinéma, mais que c'est du cirque. Donc, ça nécessite des techniques de filmage assez sensiblement différentes à ce qu'on attendrait habituellement. Par exemple, comme règle, nous avons le plan séquence avec un cadrage large qui permet de sentir pour le spectateur qu'il n'y a pas eu d'intervention du cinéaste. C'est-à-dire que si on fait une coupe dans un exploit, ou juste avant ou juste après, on peut penser qu'on ne nous montre qu'une partie des choses et qu'en réalité cet exploit est simulé. Si on le voit dans un plan assez général et en continuité absolue, ce risque tombe et on a vraiment l'illusion d'une vérité. ça n'est pas pour autant que ça fait un bon film de cirque, parce qu'un plan général ne permet pas toujours de voir ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le plan général, l'idée de continuité, et en même temps, la meilleure place pour la caméra pour voir au mieux tout ce qui se passe, y compris certains détails. C'est vraiment un travail que Laurent Chevalier fait de façon excellente. J'ai revu hier soir son film sur les bêtes de cirque, sur les fauves, qui est vraiment admirable. Et j'avais vu il y a peu de temps le film sur les acrobates avec le groupe des cigognes, un groupe soviétique qui est vraiment filmé d'une manière prodigieuse.
Bêtes de cirque de Laurent Chevalier, c'est un film qui sera projeté pendant cette semaine de cirque. Ce sera vendredi 25 à 20h au cinéma Utopia. Est-ce que vous avez un souvenir de cirque particulier, un souvenir cher de l'enfance ou sur un spectacle que vous avez vu, sur quelque chose qui vous a marqué dans le cirque ?
Oh oui, bien sûr. C'est un souvenir de 1953. Je dis tout de suite que je ne savais pas qu'on allait me poser la question. Hein, donc jugez de la spontanéité de ma réponse. C'était 1953, c'était pour Noël. J'étais au Cirque d'hiver à Paris et j'ai vu le trio Pipo, Dario et Mimille qui faisaient leur entrée clownesque. Et c'était sur les fusées spatiales. C'était la période où on commençait à y penser, on commençait à en envoyer. Et leur numéro, qui était une entrée moderne, inventée, qui ne faisait pas partie du répertoire, du moins partiellement n'en faisait pas partie, c'était une histoire de fusée où les clowns montaient. Non, c'est une entrée qui n'a pas duré très longtemps, je pense, et qu'on ne la reproduit plus maintenant, elle n'a plus d'intérêt. Mais ça m'avait vraiment fasciné. Il faut dire qu'à cet âge, j'étais très petit. Et ce que j'ai toujours aimé par-dessus tout au cirque, ce sont les clowns. Maintenant, c'est changé. Les clowns m'intéressent moins et le trapèze, le jonglage m'intéressent davantage.
Merci beaucoup Christian Rouleau et à très bientôt donc dans ce colloque consacré aux échanges entre le cirque et le cinéma. Merci beaucoup.
La représentation est terminée. Mais la vie du cirque continue. Dans la petite bruine matinale, le premier train de matériel du cirque quitte la gare, tandis que la ville sommeille encore.
Une semaine de cirque du 17 au 27 novembre 2011 à Montpellier, un bon plan Divergence FM.
Et c'est Bruno qui le dit. Bruno, notre technicien. Alors, les habitués de Cinérama ont aussi reconnu la voix de l'intervieweur, c'est Martin.
Oui, qui nous manque.
Ancien collaborateur de Cinérama et donc qui a fait cette petite incursion. On le remercie pour ce petit montage. Et toutes les infos sur cette semaine de cirque, eh bien, c'est sur le site de Divergence, divergence-fm.org. Avant de retrouver Or Noir, Intouchable et puis L'Art d'aimer, c'est à toi Marine.
Oui, on va faire une petite pause musicale avec une dédicace pour notre plus fidèle auditeur qui fête son anniversaire demain. Et on écoute tout de suite Marilyn Monroe avec My Heart Belongs to Daddy.
A game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. Cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie. Though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. Cause my daddy, he treats it so. Thank you. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy.
Et voilà. Fin de la dédicace avec Marilyn Monroe.
C'est dans Le Milliardaire avec Yves Montand.
Et nous allons donc passer cette fois-ci à L'Art d'aimer. C'est le dernier film d'Emmanuel Mouret avec François Cluzet, Julie Depardieu, Ariane Ascaride, Frédéric Bell, Judith Godrèche et le fameux Gaspard Ulliel qui a été complètement admiré par tout un tas de fans lors du Cinémède. Alors voilà ce que nous dit le narrateur. Au moment où l'on devient amoureux, à cet instant précis, il se produit en nous une musique particulière. Elle est pour chacun différente et peut survenir à des moments inattendus. Le nouveau film d'Emmanuel Mouret parle encore d'amour, de sentiments, de désir. C'est sur le ton de la comédie légère que l'on voit des hommes et des femmes s'approcher, se quitter, se retrouver. Une fille qui n'a pas fait l'amour depuis un an, faute de prétendant, une autre qui se fait désirer, une autre encore qui annonce son intention de tromper juste une fois, sans conséquence. Un film choral, où les situations cocasses ou absurdes côtoient des dialogues savoureux. Un film d'acteur, donc avec un François Cluzet sans fauteuil roulant, et un Emmanuel Mouret qui ne joue qu'un tout petit rôle, et c'est bien mieux comme ça. L'équipe du film était au Cinémède où le film était présenté en ouverture. On écoute Emmanuel Mouret et Frédéric Bell lors d'une conférence publique.
J'ai prévu du champagne, ça vous va?
Vous vous êtes dit que ça me ferait tourner la tête et que vous pourriez plus facilement abuser de moi, c'est ça?
Non, c'est que j'en avais, c'est tout.
J'aurais préféré que ce soit pour me faire tourner la tête.
Déjà, l'amour, c'est difficile à représenter puisque il faudrait être très prétentieux pour dire ce que c'est que l'amour. Donc l'amour, ça a nécessairement plusieurs facettes et personne ne peut dire ce que c'est. Moi, j'ai fait le film dans la position de non pas quelqu'un qui sait, mais plutôt quelqu'un qui ne sait pas et qui est plutôt réceptif à des situations différentes. Comme j'écris mes propres scénarios, je prends des notes sur des scénarios que j'aimerais développer, des situations que j'ai un peu écrites et tout ça, sur des sortes de cahiers de brouillon. Et puis je crois qu'il m'est arrivé de faire une liste de situations qui m'intéressaient, que j'aurais bien aimé développer et tout ça. Et puis certaines de situations étaient presque destinées plutôt à un long métrage et je me suis dit, finalement, c'est des moments qui m'intéressent ou c'est le trajet qui m'intéresse. Et dans un long métrage, on va oublier le trajet, on va passer par d'autres moments. Et je trouvais que de les associer entre elles, c'était quelque chose d'intéressant. Je suis parti en essayant de rassembler ces situations, mais aussi en les faisant se recouper entre elles, en faisant recouper certains personnages, mais pas tout. Parfois, dans les films choraux, ça me semble parfois un petit peu forcé aussi, qu'on veut que tous les personnages se croisent, arrivent à un endroit à la fin. Et j'aimais bien aussi qu'il y ait des histoires, comme l'histoire entre François et Frédéric, qui sont en épisode, des personnages qu'on retrouve plus tard, d'autres qui sont soit juste en périphérique. Mais je n'avais, pour le coup, aucun modèle. Voilà. Donc c'est la seule petite difficulté qu'il y avait, c'est de ne pas avoir de modèle, on va dire, à ce genre d'histoire. Et le titre, L'Art d'aimer, m'a aidé, m'a donné confiance à y aller.
Je me demande si je ne devrais pas essayer d'avoir une aventure. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, ça, si vous ressentez un tel besoin...
C'est la problématique de ce que veulent les femmes aujourd'hui. Elles veulent à la fois la virilité, le côté spontané, fort, puissant de l'homme, et à la fois qui rentre dans la petite boîte de leurs désirs, de ce qu'elles ont imaginé. Et elle, visiblement, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Je pense qu'à un moment donné, elle se perd elle-même et elle perd François dans les méandres de sa folie. C'est un personnage qui m'avait fait un petit peu peur au départ parce que je la trouvais vraiment chiante. J'ai dit, quelle tête à claque, ça va être horrible, je plains l'actrice qui va jouer ça. Et puis au final, je me suis rendu compte qu'en mettant beaucoup de lumière dans ce personnage, on pouvait la rendre touchante dans le côté perdu. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu le symbole de notre société. Enfin, le fait que les hommes et les femmes n'ont plus vraiment, savent plus vraiment comment se positionner par rapport à leurs désirs, qu'est-ce qui est de l'ordre, qu'est-ce qu'on a le droit encore de faire.
C'est juste quelqu'un qui ne sait pas si elle le désire vraiment, si elle est amoureuse, si elle n'est pas amoureuse. Donc c'est quelqu'un qui se pose des questions. Et moi, j'ai l'impression de voir ça autour de moi, enfin même en moi, de mes amis et tout ça, par rapport à son désir. Il faut savoir en fait si on est amoureux, si on n'est pas amoureux. On se pose beaucoup de questions. Donc le personnage les porte, on va dire, d'une manière très ouverte, d'une façon assez cocasse, très, très, très plaisante. Mais j'ai l'impression que ça rejoint aussi un peu à notre intimité, pas uniquement des femmes, mais aussi des hommes. Ça arrive aussi à des hommes de se poser des questions, quoi.
Quoi ? Ça fait un an que t'as pas fait l'amour ?
C'est comme pas de ma faute si je tombe pas amoureuse.
Mais en attendant, tu pourrais faire quelques petites rencontres pour te faire un petit peu du bien.
J'ai pour toi une attirance qui n'a fait que grandir ces dernières années.
Mais quel genre d'attirance ? Tu sais, depuis qu'on est ensemble, j'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre. Eh bien, peut-être que là, je vais coucher avec quelqu'un. Mais juste une fois, après, ça en va loin.
Un des choix qu'on a fait avec Laurent Desmet sur ce film, c'est de privilégier déjà plutôt des plans séquences pour que les acteurs aient, on va dire, une certaine forme de matière à jouer. Et de privilégier, on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un là, tout ça, quelque chose que Jean-Louis Comolli appelait la théorie du patou. Alors qu'est-ce que c'est le patou ? C'est pas tout montré. En général, lorsque vous regardez un téléfilm, une série, tout ça, très, très souvent, qu'est-ce qu'on voit ? Tout. Deux personnages s'expriment, on voit le visage de l'un, le visage de l'autre, on voit le gros plan, enfin, on montre tous les détails. On est saturé de détails. Nous, l'idée, c'était plutôt que, par exemple, si quelqu'un fait une déclaration d'amour, dit un « je t'aime », eh ben, on se dit, mais on l'entend. C'est même pas besoin de le voir, il peut être de dos. Il peut être dans la pièce d'à côté. Et c'est d'autant plus fort. Et en faisant ça, on se projette dans cette parole. On imagine son expression. Et donc le jeu, c'est finalement de plus jouer avec le spectateur, avec son imaginaire, en donner un petit peu, mais aussi en enlever, pour qu'on se projette dans les personnages.
J'ai l'impression d'être un feu rouge.
Feu rouge.
Bah oui, vous me regardez comme si vous attendiez que je passe au vert, je vous assure, ça met une pression.
Mais j'ai rien fait.
Justement.
Voilà, L'art d'aimer, donc film d'Emmanuel Mouret qui sort aujourd'hui et qui est projeté à peu près dans tous les cinémas, sauf l'Utopia et l'Or Royal.
Cinérama sur Divergence FM.
On va passer maintenant à Intouchable, voilà, il fallait bien que quelqu'un s'y colle, donc c'était moi. Alors l'histoire que tout le monde connaît déjà, donc on vous épargne la bande-annonce. C'est celle d'un riche tétraplégique joué par François Cluzet qui accepte de prendre à son service comme assistant Omar, un grand black des cités qui sort tout juste de prison. Et bien sûr, les deux vont apprendre à se connaître, à s'aimer. Et voilà, on est parti pour un long film totalement, entre guillemets, antidépresseur, comme nous le dit la critique. Alors, si l'on part du principe qu'un antidépresseur agit sur le cerveau pour neutraliser vos émotions et vous mettre dans un état d'abrutissement latent, alors oui, le film agit comme un antidépresseur et participe joyeusement à l'apaisement des masses. Ce n'est pas un mauvais film, c'est juste un film agaçant de surestimation. Je vais donc, pour en parler, reprendre tout ce que l'on a dit à son sujet. À commencer par l'humour transgressif. Non, l'humour est ici lourdement populiste. À 1h24 de film, je ne l'avais toujours pas ri. Et pour cause, Omar, dont on peut critiquer le charisme et la bonne humeur communicative, joue de la même manière que dans son programme de Canal+, SAV, à savoir, il balance une vanne niveau collège et explose de rire pendant 5 minutes, ce qui en devient presque gênant car lui semble beaucoup s'amuser, ce qui n'est pas notre cas. Finalement, le plus drôle des deux est Cluzet, dont l'interprétation poignante est bien plus comique que celle de son partenaire. Mais l'analphabète inculte a le bon rôle et il se doit d'être drôle puisque c'est bien connu, lorsque l'on est cultivé, on est chiant à mourir. De même que la soi-disant satire sociale est totalement à sens unique. Le film tire à bout portant sur les riches, les personnages de la haute société étant montrés comme coincés et méprisants. En revanche, utiliser le jet privé et les belles voitures de Cluzet ne choque absolument pas le gentil prolétaire joué par Omar. Apothéose de la mauvaise foi et de la facilité, cette scène culte où le pauvre mais sage assistant dénigre l'art abstrait qui vaut des fortunes alors qu'il porte lui-même des Nike à 200 € fabriqués pour 50 centimes par de petits Pakistanais. Puisque les réalisateurs sont bien incapables de créer de l'art, ils se permettent d'en rire grassement afin de rassurer les spectateurs qui ne sont pas sûrs de tout comprendre lorsqu'ils vont au cinéma. Et je relèverai aussi que le film porte un regard vaguement nauséabond sur les femmes, très secondaires et pour cause, dans le film ce sont soit des chieuses, soit des putes, soit des frigides. Ah pardon, on me fait signe que dans la vie c'est pareil, bref. On emmènera donc sa petite sœur parce qu'il y a Omar de service après-vente, et son père parce qu'il y a François Cluzet, et puis on va tout simplement aller le voir pour dire, comme les 7 millions de Français déjà conquis, que nous aussi on est dans le coup. Et au moins, c'est un sujet inoffensif dont on pourra parler à la pause café. Avec un casting, il faut l'admettre, très efficace et réussi, on aurait presque envie d'oublier que les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Todelano ont aussi un boulot à faire, puisqu'on oublie de parler d'art à la deuxième image. Mais réussir leur mise en scène ou pimenter le tout d'un peu d'originalité semble encore trop fatigant. Le film a un sérieux problème de rythme et confine presque à l'ennui avec des rebondissements inexistants et des seconds rôles mous du genou, jusqu'à une scène finale terriblement niaise qui n'est malheureusement pas la seule. Ce n'est pas un film salvateur qui va aider à changer le regard des gens sur les intouchables de notre société, c'est du cinéma hautement démago qui a parfaitement compris comment se placer du côté du spectateur et lui montrer ce dont il a envie tout en lui soufflant un léger vent de bonne conscience. Oui, c'est bien le film de l'année, pour tous ceux qui ne vont au cinéma qu'une fois par an, ceux qui se déplacent pour Bienvenue chez les Ch'tis ou Rien à déclarer. Alors pourquoi un tel succès ? Parce que le spectateur est rassuré, bien calé dans son fauteuil, on ne lui sollicitera aucun neurone, et on le fera rire avec de l'humour TF1 comme il en a l'habitude, sans qu'aucun effort de mise en scène ne vienne perturber sa projection. Et en parlant de projection, je rajoute quand même que j'ai été le voir au Royal, j'ai fait une petite infidélité au Diago et ça ne se reproduira plus, étant donné que j'ai payé 8,50€. Quand même, il faut dire qu'au Royal, ils ne font aucun tarif réduit.
Eh oui.
Je pense que c'est un peu dommage pour un cinéma qui se prétend à réessayer quand même.
Mmh. Bon, voilà. Il ne fait pas que de la réessayer, hein, le Royal, quand même.
Non. En tout cas, vu que le Diago, maintenant, n'a plus aucun problème de projection, je n'irai plus que là-bas.
Bah, l'avantage du Royal, c'est qu'il y a quand même des fauteuils très très moelleux.
Non, c'est vrai, c'est vrai, je concède.
Donc, tu as descendu Intouchable, on peut le dire comme ça, hein, en résumé, et je crois que c'est la même chose pour Or Noir, hein, qu'on a vu tous les deux il y a 15 jours en avant-première.
Oui.
Qui sort aujourd'hui, film de Jean-Jacques Hano.
Mm-hmm. Alors, qualifié de fresque épique par tous ceux qui ne veulent pas dire navet, Or Noir, donc, c'est le retour de Jean-Jacques Hano au cinéma. Tout se passe au début des années 30, lors de la découverte du pétrole, dans un lointain et féerique pays arabe. Deux émirs sont en rivalité, unis par leurs enfants, que l'un d'eux élève, en gage de paix. Mais l'arrivée des Américains, en quête de cet or noir, va réveiller des tensions meurtrières. Alors le film se voudrait plein de bruit et de fureur, avec force rebondissement, mais il s'avère aussi plat que son décor désertique dans lequel s'élèvent quelques éléments en carton-pâte, à l'exception de ces scènes de bataille bien menées, il faut quand même le dire. Hano a voulu ressusciter un genre qui appartenait au cinéma américain des années 30, mais tout cela est si désuet que l'on croirait une parodie si le réalisateur ne se prenait pas tant au sérieux. Le romanesque excessif serait légitime s'il entraînait le spectateur dans un moment divertissant et pas trop intellectuel, mais le lyrisme des dialogues et le ridicule des situations nous font au mieux sourire, au pire nous assoupir. Il y aurait beaucoup à dire sur la niaiserie et les incohérences du scénario, mais ce serait accorder un peu trop d'importance un film qui nous en a déjà fait perdre, qui nous a déjà fait perdre 2 heures, pardon. Tahar Rahim montre malheureusement ses limites d'acteur, intense lorsqu'il interprète un ouvrier passionné dans Love and Breeze de Louis Yé. Il redevient ici un jeune acteur plutôt maladroit et pas très crédible qui se débat dans un rôle trop grand pour lui. Le reste du casting est un fourre-tout où personne n'a l'air de s'amuser, avec Antonio Banderas en émir arabe qui s'y croit vraiment et c'est bien le seul, et l'actrice indienne de Slumdog Millionaire, Freda Pinto. Ajoutons à cela un scénario un peu douteux qui traite de la colonisation des pays pétroliers par les Occidentaux de manière ambivalente et vous obtiendrez un gros film raté.
On va quand même écouter Jean-Jacques Hano, hein, qui était présent. C'est quelqu'un finalement de plutôt sympathique, qui a passé énormément de temps. On n'était que 3 journalistes autour de lui, ce qui fait que voilà, on a pu lui poser à peu près toutes les questions qu'on voulait. Moi, j'ai davantage insisté sur le côté historique, hein, puisque effectivement, on retourne dans les années 30, la découverte du pétrole au Moyen-Orient, et on va écouter ce qu'il en dit.
Voici mes conditions. Tout ce que je veux, c'est ton amitié, ainsi que mes fils. Un gage de sécurité pour nous deux. Tant qu'ils seront sous mon toit, je ne pourrai pas te faire la guerre. Mais toute épée est à double tranchant. Nous ne pourrons pas te faire la guerre, nous non plus. Tes fils seront un lien de paix entre nous. Je les élèverai comme mes propres enfants avec mon fils Tariq. et ma fille Leïla. Et le corridor jaune. Nous devrions rire de nous-mêmes d'avoir pu prendre les armes pour ce... ce bout de sable. Ce désert de sable et de pierre sera désormais un terrain neutre. Ni toi ni moi ne pourrons le revendiquer.
Qu'Allah m'en soit témoin.
Oui, on peut parler d'un film historique parce que la problématique qui est posée, elle a été complètement universelle pendant les 40 années qui ont suivi la découverte des premières gouttes de pétrole sous la patte des chameaux. Cette interrogation des dirigeants et des populations locales a été très très profonde, avec des divergences intenses entre des régions qui pensaient que c'était bien de laisser faire les étrangers, d'autres qui ne voulaient pas qu'on interfère avec leur vie. Donc le débat qui est au centre du film et les querelles et la guerre qui en résulte, elle a beaucoup existé, en particulier en Arabie Saoudite. Il y a un livre français qui avait été écrit par un type qui s'appelle Benoît Béchin, qui est un magnifique historien, et qui parle qui est centré autour du personnage d'Ibn Seoud, qui raconte une histoire vraie, si vous voulez. Celle que nous racontons, elle est Véras. C'est un petit peu comme le nom de la rose, qui était situé en 1348 dans un endroit bien précis, ça n'a jamais existé, sauf que le débat qui était mené du savoir interdit et tout était totalement d'époque. Les querelles byzantines étaient totalement d'époque, et là aussi on est dans une problématique totalement d'époque.
Et alors, qu'est-ce que vous comptez leur faire faire comme exercice?
C'est mon armée de paille pour détourner l'attention de Nessib. Je vais la lui agiter au visage pour le frapper au cœur. Toi qui connais bien Nessib, quelle opinion a-t-il de moi?
Il dit que vous êtes un homme honorable, mais désespérément figé dans le passé.
Une antiquité.
C'est de toute façon le problème de l'intrusion de la modernité, du changement d'une société qui accueille ou non des technologies nouvelles et qui doit bouger ou pas. Selon l'évolution du monde contemporain. C'est une problématique très compliquée qui a agité l'Europe a été agitée par ce débat jusque après les révolutions. Décidément, on se retrouve dans la nuit, c'est très bien. Mais si vous voulez, c'est ça que j'ai... J'aime bien, moi, qu'au-delà de l'aventure, au-delà du spectacle cinématographique, il y a un sujet de réflexion. Et j'aime bien aussi que ce sujet de réflexion soit ancré sur un point de réalité, mais puisse avoir valeur universelle. Vous citez le Nigeria, il m'arrive aussi, moi, d'expliquer que, justement, ce dilemme du pétrole... Est-ce que ça a été bien pour la population? Est-ce que c'est bien pour les populations? Qui en profite? Est-ce que c'est vraiment mieux? Les gens qui habitent le Nigeria ou le Tchad se posent la question. Et on peut se poser la question, et on continue de se poser la question. Moi, maintenant, qui connais bien les pays du Golfe, il y a beaucoup de gens qui se posent la question aujourd'hui, et qui se la sont posées dans les années 60, beaucoup. Et dès les années 30, effectivement, ce problème a été parfois très très violent jusqu'à conduire à des conflits.
Voilà, c'était Jean-Jacques Hanau donc, qui était présent il y a une quinzaine de jours à Montpellier. À noter que la semaine prochaine, parce qu'il y a eu aussi un long développement sur sa conception du son, il a une conception du son très très particulière, j'ai fait un montage où j'ai passé beaucoup de temps et donc il sera diffusé la semaine prochaine. J'espère que vous serez tous à l'écoute de Cinérama.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Voici le moment de l'agenda avec le vendredi 25 novembre, une soirée kino, c'est salle Pétrarque, projection inédite de court-métrage fait pour l'occasion sur le thème Conte de fées et présenté par leurs auteurs, puis diffusion de kino en provenance du réseau mondial. Et vous aurez l'occasion de voir Marine en image. Bah oui. Sinon, après les avant-premières Parasol et Crustacés de Laure Pradal, la société Plage et ses différentes tribus décryptées par le sociologue Jean-Didier Urbain. Et donc ça, ce sera au Diagonale à 18h ce lundi 28 et un apéritif sera offert à l'issue de la projection, c'est toujours bon à savoir. Le mardi 29 novembre à 20h15 au Diagonale, une avant-première, 17 filles de Muriel et Delphine Coulin. Et donc la réalisatrice Delphine Coulin sera présente au Diagonale. Et puis une autre avant-première le même soir, mais cette fois-ci à l'Utopia, c'est à 20h, avec Nous Plusieurs de Fred Soupa. Et ce sera en sa présence. Et puis sinon, vous pouvez retrouver eh bien, toutes les projections cinéma autour du cirque sur www.divergence-fm.org.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Et ça tous, contagion. Le 24 notes seconde après Cinérama, eh bien sera concernera Brian De Palma, c'est ça hein, que tu demandais
voilà, très discrètement.
Marine, tu ne seras pas là la semaine prochaine, mais on enregistrera quelques chroniques. Et puis on recevra eh bien Ferdinand, le directeur du
Festafilm, qui a lieu la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.